Bonsoir à tous et bienvenue comme chaque semaine dans Alter Echo avec Olivier, Nico et Nicolas. Alter Echo, c'est toutes les semaines en direct le mercredi soir à 22h sur Campus 107.2. La rediffusion a lieu le vendredi après-midi à 14h également sur Campus. Et puis une nouvelle rediffusion le mardi matin dans la matinée vers 10h sur Radio Panique 105.4. Exceptionnellement, cette émission a été enregistrée le dimanche soir vu l'absence prévue d'un de nos invités. Donc veuillez nous en excuser, c'est une nouveauté. Et puis toujours également le site internet d'Alter Echo, www.collectif.net/alterecho. Pour aujourd'hui au programme, nous avions encore un petit restant de la semaine dernière, c'est-à-dire la suite et la fin des chroniques montréalaises de Nicolas sur les libertés publiques au Canada après le 11 septembre. Il y aura une petite interview, un commentaire d'article. Et puis ensuite, nous aurons un gros chapitre sur la Russie avec en studio deux spécialistes que le monde nous envie, Nathalie Mélis et Jean-Marie Chauvier. Nous parlerons notamment d'un article paru ce mois-ci dans le monde diplomatique, de la presse en Russie et des suites du 11 septembre.
Donc, revenant du Canada, j'ai pu avoir l'occasion de lire la presse locale et la presse américaine, et dont le fameux magazine Foreign Affairs. Foreign Affairs, vous ne le savez peut-être pas, est l'organisme du Parti démocrate, un organisme qui est un journal universitaire, qui se veut être le monde diplomatique, mais avec la vision démocrate et très libérale du monde que possèdent les Américains. C'est un peu le journal qui était le reflet de la pensée clintonienne. Mais comme ce journal a toujours tendance à courir après finalement les gouvernements, le journal s'est plus radicalisé encore et a tendance à devenir un organe républicain. Et j'ai eu la grande surprise de lire dans l'article de janvier-février 2002, justement par rapport à ce qui allait se passer à Porto-Alegre, un article concernant l'anti-globalisation. C'est un article totalement anti-globaliste. Le titre veut tout dire. Déjà, coping with anti-globalization, et ça veut dire s'en tirer avec l'anti-globalisation, s'en tirer pour totalement trouver des solutions contre ça. L'auteur est Jagdish Bhagwati, qui est en fait un professeur à l'université d'économie de la Columbia. Ce professeur tente de démontrer par trois points principaux quels sont les défauts du discours antimondialiste. Car il part du postulat tout simplement que la mondialisation est un phénomène controversé. Il part également du principe que les opposants critiquent ce phénomène selon une trilogie de mécontentements qui sont le capitalisme, le processus de globalisation et le comportement des multinationales. Tout ça a l'air très sérieux et quand on va un petit peu à l'intérieur de son discours, on se rend compte qu'il tente de descendre les trois axes, selon lui, les trois axes de mécontentement. Alors, sa thèse, elle est simple. La fin du XXe siècle a été marquée par la victoire du capitalisme, et mais victoire avec un grand V, sur ses ennemis et il met dans le même sac le fascisme, le communisme et le socialisme. Pour lui, le manque d'alternatives a donc provoqué de graves angoisses de la part des anticapitalistes, des socialistes et autres révolutionnaires, ainsi que des gens d'extrême droite. Il les met toujours dans le même sac. Déjà, grosse confusion. Et par ailleurs, pour lui, un deuxième groupe a tendance à rejeter l'antiglobalisme. Il s'agit des jeunes. L'auteur a même tendance à dénigrer ces jeunes car il part de kids de façon très très méprisante, ces kids qui font du bruit dans la rue, c'est un petit peu le discours en disant maintenant ils font du bruit, plus tard ils feront comme nous. L'auteur donc finalement explique le rejet de la globalisation par les jeunes, par le fait simplement que les jeunes soulignent les inégalités générées par la mondialisation. Mais l'auteur considère qu'il n'y a pas du tout d'inégalité, bien au contraire, pour lui, ces jeunes se trompent, car pour Bhagwati, la mondialisation diminue les inégalités. Il parle d'un exemple de l'Inde où finalement il montre très bien que la planification socialiste au cours de l'histoire en Inde aurait aggravé les inégalités. Il oublie totalement que finalement ces inégalités ont surtout été approfondies à cause surtout à des phénomènes exogènes. Et puis Bhagwati, pour lui, il peut admettre à la limite que le capitalisme a détruit certains privilèges, mais à long terme, il offre surtout des opportunités économiques extraordinaires. Et il continue dans son article qui dure quand même 25 pages, il faut quand même se le farcir. Bhagwati explique ce rejet donc de la mondialisation chez les jeunes par le péril de l'éducation. Et là, il devient très dangereux, car pour lui, le péril de l'éducation, en fait, serait dû à une littérature comparative et sociologique de gauche. Pour ce professeur d'économie, le plus grand danger est finalement un mouvement littéraire comme le déconstructionnisme du français Jacques Derrida. Il faut pour lui en revenir au contraire à une éducation basée sur les principes économiques pour éduquer ces jeunes déboussolés par toute cette littérature dissidente. Et là, je ne fais que citer ce qu'il dit. Donc finalement, les termes de son argumentation sont très douteux et il en vient donc à critiquer la trilogie, le capitalisme, les compagnies et l'antiglobalisme. Il parle simplement du fait que les critiques contre le capitalisme et l'antiglobalisme ne veulent rien dire car il y a juste eu un phénomène de déplacement de l'anticapitalisme sur l'antimondialisme et il n'explique même pas pourquoi ce rejet et il n'arrive même pas à totalement défendre son point de vue. Ensuite, et là ça devient le plus intéressant, il parle des multinationales qui, selon les antimondialistes, d'après lui, sont le cœur du problème. Et il rejette totalement l'argument que ces multinationales constituent un problème. Au contraire, il voit la globalisation une exploitation des multinationales toujours plus rapaces. Il n'est pas d'accord avec cette idée. Au contraire, lui estime que ces compagnies ne menacent pas l'environnement. Elles ne menacent pas finalement les droits sociaux. Elles ne menacent pas les libertés individuelles. Tout à fait au contraire. Ces entreprises ont une réputation à défendre. Donc polluer serait néfaste pour les images des entreprises. Et là, son discours est encore plus dangereux, car il oublie peut-être aussi de signaler que la majorité des grandes entreprises contrôlent les médias. Donc comment finalement ne pas dire des choses qu'on ne peut pas dire? Il oublie le cas de Total, par exemple, qui a quand même un des plus gros pollueurs du monde et qui finalement est l'entreprise française qui génère le plus de bénéfices. Et pourtant, on ne parle pas de ce que Total fait. Soit, pour ce professeur de la Columbia, je ne vais pas m'étendre sur cet article car il donne la nausée et les mains sales en même temps, les entreprises contribuent même au développement des droits de l'homme. Il cite des travaux des économistes ultralibéraux. Il parle entre autres de l'article d'Elizabeth Brand ou de Sandra Black. Ces travaux, en résumé, tentent de démontrer que les droits des femmes ont augmenté dans les régions pauvres où les multinationales se sont implantées. Et il rejette même l'argument des féministes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce discours. Et pour lui, finalement, c'est un grand progrès de voir une femme au Ghana qui travaille 15 heures par jour pour l'usine Nike. Et oui, c'est pour lui, c'est ça les droits humains. En définitive, l'article de Bhagwati est une perle de la rhétorique. On n'a jamais vu une aussi belle tentative d'anti-globalisme. Pourtant, à force de tout vouloir démontrer par des contre-arguments douteux, on se brûle vite. Même dans son texte, Bhagwati finit par ne pas convaincre les libéraux les plus convaincus. Il fait preuve d'une mauvaise foi crasse. Par ailleurs, vouloir dénigrer la philosophie, la sociologie, en émettant l'idée de ne plus enseigner ces disciplines aux étudiants afin de les former à la bonne littérature économique, ça s'appelle de l'obscurantisme. Et l'obscurantisme, au fascisme, il n'y a qu'un pas. D'autre part, donc, c'est un reflet, cet article, de ce qui se passe dans la pensée unique nord-américaine. Et on se rend compte qu'il y a des répercussions très importantes dans les pays nord-américains, que ce soit aux États-Unis et au Canada. Dans cet esprit, le 11 septembre a donné un prétexte au gouvernement d'Amérique du Nord d'adopter des lois liberticides. On peut citer au Canada les lois C-36, C-11, C-42 et C-35. Ces lois, en résumé, limitent les libertés individuelles. Elles ont même tendance à assimiler les manifestations à l'antimondialisme. Il faut quand même dire qu'au Canada maintenant, une réunion de plus de 3 personnes constitue une activité terroriste. Et face à ça, des comités de défense des droits des libertés individuelles se constituent néanmoins au Canada. Ils ont énormément de mal à se faire écouter et surtout énormément de mal à manifester. Écoutez le témoignage de Bertrand Leblanc, qui est un membre du collectif OCAP.
Le 16 octobre, c'est ça, il y avait une manifestation organisée par l'OCAP qui est... Ontario Organization Against Poverty. Puis c'est ça. C'était en fait pour demander pour la démission du premier ministre Mike Harris. Parce qu'en tout cas, il y a plein d'histoires avec lui. En tout cas, il est vraiment réactionnaire, tout ça. Puis tout le temps des coupures dans le chômage envers les pauvres, tout ça. Puis c'est ça. Puis il y a eu une manifestation cette journée-là. Puis ça a un peu brassé puis tout ça, puis ça a valu que, genre, quelques jours avant ou quelques jours après, en tout cas, il a donné sa démission, là.
Il a donné sa démission. Et alors, combien de personnes étaient réunies durant cette manifestation?
Il y avait, je crois, environ à peu près 2000 personnes.
2000 personnes.
Oui.
Et alors, concernant le dispositif de sécurité, est-ce qu'il était plutôt laxiste ou au contraire très sévère?
Le dispositif de sécurité comme tel, il était assez sévère, là. En tout cas, il y avait un assez grand périmètre, c'est ça, puis tu pouvais pas t'approcher vraiment de l'hôtel de ville à rien. En tout cas, c'était un assez gros périmètre, là.
Est-ce que c'est un petit peu inspiré comme dispositif de ce qui s'était fait pendant le sommet des Amériques à Québec?
Ben, il faut dire que c'était un peu moins pire, là. Je veux dire, je pense pas que les policiers là-bas avaient des fusils à balles de plastique, puis en tout cas, je sais qu'il y avait les gaz lacrymogènes et tout ça, mais à part de ça, c'était un petit peu, je veux dire, il y avait pas de clôture non plus, là. C'était pas aussi rude qu'à Québec, quoi.
On dit souvent qu'au Canada, les lois sont souvent très sévères et qu'il y a dans ce genre de manifestation des arrestations arbitraires. Est-ce que c'est vrai ou c'est une légende?
C'est pas vraiment une légende, en tout cas, je veux dire, ben, franchement, la plupart de nous, quand on va dans les manifs, je veux dire, on est souvent prêt à se faire arrêter parce que ils peuvent t'arrêter pour n'importe quoi. Si t'es plus que trois, ils peuvent t'arrêter pour attroupement illégaux, si juste que tu participes à une manifestation, ils peuvent t'accuser de méfaits, puis juste avoir participé, ils peuvent t'accuser de participation à un émeute. En tout cas, il y a tout plein d'accusations qui viennent avec, mais souvent, je veux dire, il n'y a pas vraiment de conséquences, hein, mais c'est juste que souvent, tu peux passer une journée en prison, puis après ça, ils ont ton nom, puis je veux dire, t'es fiché après souvent, là, mais c'est à peu près ça, c'est vraiment un peu en plus, là, avec les nouvelles lois qui votent, là, la C-36. Je veux dire, pour n'importe quoi, quasiment, ils vont pouvoir t'accuser de terrorisme. Fait qu'en tout cas, ça s'en vient de plus en plus pire, quoi.
C'est quoi en fait précisément la loi C-36?
La loi C-36, précisément, je pourrais peut-être pas tout te l'expliquer précisément au complet, mais je veux dire, c'est carrément, ils peuvent, parce que tu as une loi ici, qu'ils peuvent juste t'écouter sur ton téléphone pendant 3 mois. Master, ils vont pouvoir t'écouter pendant 3 ans. Ils peuvent faire des arrestations préventives 72 heures à l'avance. En tout cas, puis justement, ils peuvent renforcer, en tout cas, justement, la protection, ben, la protection, disons, là, mais le service policier pendant les manifs, tout ça. En tout cas, c'est plein de lois qui s'ensuivent comme ça, là.
Et est-ce qu'il y a eu des mouvements de mouvements de défense de liberté individuelle qui ont réclamé contre ces lois parce qu'elles sont vraiment tout à fait à l'encontre des libertés individuelles et des droits de l'homme?
Il y en a eu quelques-uns, mais vu que ça, en tout cas, je veux dire, il y a eu des manifestations, il y a eu des choses comme ça, mais je veux dire, il n'y a pas un grand élan je veux dire, d'opposition à cette loi-là, parce que je sais pas, on dirait, ben, le peuple comme tel n'a pas l'air à s'en foutre, mais je veux dire,
C'est pas hyper médiatisé en fait, le fait que cette loi existe.
c'est pas hyper médiatisé, puis vu qu'on est en Amérique du Nord, juste à côté des États-Unis, ça leur donne encore une raison de protection des citoyens, blabli, blabla, mais en fait, c'est que ça va venir encore plus brimer les citoyens, tu sais.
Ouais.
Et encore là, en plus de la loi C-36, ils sont en train de voter une autre loi qui peut, disons, tu sais, à Québec, le périmètre, ça aurait pu être une zone militaire.
Ah,
Donc,
carrément.
l'armée, à présent, si la loi est acceptée par les sénateurs, à présent, des manifestations comme ça, ils pourraient peut-être avoir l'armée, puis, en tout cas, ça pourrait être, c'est ça, encore pire que c'est là.
Bonsoir, donc on enchaîne comme Olivier vous l'a annoncé en début d'émission sur le dossier Russie et on découvre justement dans le monde diplomatique de ce mois-ci, en page 20 et 21, allez-y vite l'acheter si vous ne l'avez pas encore, un article titré Comment la Russie devient la poubelle nucléaire du monde est signé Nathalie Mélis. Alors Nathalie Mélis est justement avec nous ce soir, quelle chance. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir.
Alors tout d'abord, en quelques mots, qu'est-ce qui t'a amené à en savoir, tout d'abord, à en savoir tellement sur la situation de l'écologie en Russie et à vouloir témoigner de cette situation?
Ben, ça fait un bon moment que je travaille sur la Russie. On me demandait tantôt pourquoi je m'y suis intéressée. C'est un peu un coup de cœur après y avoir été une semaine en réto qui m'a amené à avoir envie de connaître mieux ce pays. Étant donné que je faisais aussi des études de journalisme, c'était une manière pour moi de décider que voilà, c'était là-dessus que je voulais travailler, faire un travail de fond à long terme. Et vu mon engagement ici en Belgique, j'ai très vite eu envie de savoir ce qui se passait au niveau des mouvements sociaux. L'écologie, c'est venu parce que beaucoup de gens que j'ai rencontrés là-bas étaient fort impliqués justement dans des combats écologistes. Et sur la question du nucléaire, c'est simplement parce que quand j'ai vu ce qui se passait, donc que cette loi qui permet l'importation en Russie de déchets nucléaires étrangers, sans doute ad vitam pour les enterrer, passait à peu près inaperçu ici, en tout cas dans la presse francophone, et que parallèlement à ça, il y avait un mouvement justement écologiste autour de cette question qui prenait une ampleur assez considérable, rien quand on voit les 2 millions de signatures que les écologistes ont réussi à rassembler pour pouvoir demander l'organisation d'un référendum sur cette question. Je me suis dit, bon là, il faut que je me mette à fouiller cette question et à comprendre ce qui est en train de se passer et à essayer que ça passe ici, à l'ouest.
Alors, puisque tu entames spontanément le contenu de l'article, justement, est-ce que tu pourrais, on vous conseille évidemment d'acheter le Monde Diplo et de le lire, mais est-ce que tu pourrais, pour jeter les bases de la discussion, un peu expliquer ce que raconte cet article?
Donc c'est un article qui part du fait que le Minatom, donc le ministère russe de l'énergie atomique, a eu un fantastique projet, c'est celui de vouloir se faire des sous en important les déchets nucléaires étrangers, sans être obligé à les rentrer dans les pays d'origine. C'est-à-dire que donc on a actuellement ce qui est en France, la France retraite des déchets étrangers puis les ramène au pays. La Russie, elle, par cette loi, rend possible une importation de déchets ad vitam pour les enterrer ou pour les retraiter, mais c'est très peu probable. Donc à ce niveau-là, tout ça a commencé il y a déjà à peu près 2 ans, quand il y a eu premier projet de loi qui donc voulait mettre en place les éléments législatifs pour que ça puisse arriver, est apparu à la Douma et que les écologistes se sont très vite mis à se mobiliser parce que c'était en plus un contexte particulier, étant donné que le comité à l'écologie, qui était un des derniers survivants de la parole des écologistes au gouvernement, venait d'être, on peut dire, supprimé parce que ça revient à ça, c'est-à-dire qu'il a été inclus dans le ministère de l'exploitation des ressources naturelles. Et idem pour le Service fédéral des forêts, qui est aussi un organisme qui est censé gérer l'exploitation des forêts d'une manière plus ou moins écologiste. Et donc, voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu un immense mouvement pour essayer d'empêcher ces projets de loi de passer à la Douma. C'est ce que cet article raconte.
Et tu parles donc justement de la part des écologistes, on se rend compte que leur combat est encore plus difficile en Russie qu'ici. Tu mentionnes donc une pétition qu'ils avaient fait passer pour un référendum. Tu expliques que finalement le référendum, enfin la pétition a été rejetée pour 800 signatures et que la Cour constitutionnelle a même rejeté la requête de ce groupe. Par rapport à ça, est-ce que c'est tout, c'est Peux-tu m'expliquer plus en détail en fait les difficultés auxquelles sont confrontés donc les groupes de défense de l'écologie?
Mais c'est toute la difficulté, en tout cas au niveau de la législation et des cours, d'arriver à faire valoir ses droits. Déjà, la législation écologiste est assez pauvre, il y a des tas de trous, donc il y a des tas de choses qui ne sont pas possibles d'obtenir en justice. Et puis alors, il y a ce qui s'est passé pour le référendum, où dès qu'il s'agit de questions importantes, etc., l'indépendance des juges passe en général à l'arrière-plan. Enfin, là, il s'agit de la commission électorale qui est connue pour de toute façon être très proche du
C'est
pouvoir.
ça, donc pour rappeler les détails de cette histoire, pour obtenir un référendum, c'est ce que j'ai cru comprendre dans l'article, il faut rassembler au moins 2 millions de
De
signatures.
signature.
Eux avaient rassemblé 2 millions et demi de signatures, et finalement, à l'examen de ces signatures, la cour qui a examiné l'accès ou non au référendum a éliminé, a invalidé 800 000 signatures, c'est ça? Alors, est-ce que c'est selon une procédure légale, est-ce que les pétitions avaient été très mal organisées, ou est-ce que c'est une plate manipulation
Non, parce que les écologistes m'ont dit eux-mêmes qu'ils en avaient rassemblé beaucoup plus et qu'ils avaient supprimé une partie justement en se disant qu'elle pourrait pas être validée étant donné qu'il manquait des éléments ou des choses comme ça. Mais là, les motifs qu'ils ont reçus en général, c'est ce que j'indique dans l'article, c'est style le il n'y a pas mention de la région où la signature a été enfin dans l'adresse, alors que c'est des listes qui sont effectuées sur base régionale. Donc des motifs très formels et sur lesquels de toute façon ils n'ont jamais eu vraiment prise ou enfin ils n'ont jamais vraiment pu voir ce qu'il en était exactement. Et puis donc ils ont fait un recours à la Cour constitutionnelle qui est tombée à l'eau aussi.
Mais comment est-ce qu'on peut voir comme ça se propager une attitude politique qui est tellement impopulaire d'après les sondages que tu cites? Parce qu'on voit comme Poutine comme quelqu'un de terriblement populiste, même s'il a une volonté d'un libéralisme forcené, il va évidemment pas cracher sur de telles possibilités de revenus que pourrait engendrer cette importation de déchets, mais en même temps il est très populiste. Alors comment est-ce qu'il peut gérer une telle situation où il se met vraisemblablement tout à fait en porte-à-faux par rapport à l'opinion publique?
Mais ce qu'il y a, c'est que justement, il n'a pas pris position pendant une bonne partie du temps. Il s'est tout à fait tenu en dehors du débat et il n'a pas du tout, comme dans beaucoup de sujets comme ça délicats, en général, il s'abstient de prendre la parole jusqu'au moment où il doit évidemment signer les projets de loi, donc où là où il a dû prendre position, mais c'était déjà au mois de juillet, au moment où il n'y a pas beaucoup de scandales politiques, enfin, on ne parle pas beaucoup de ce genre de choses-là. Et puis il a pris soin, comme je l'explique aussi, de mettre en place alors une commission spéciale qui devrait étudier chaque projet d'importation. Donc de quand même donner un peu du lest. Et
On
il
se rend
a.
compte qu'il a signé par exemple que, donc, tout comme tu disais, toute cette idée a commencé finalement durant l'année 2000. Il n'a finalement donné que sa signature en juillet 2001, quoi.
Et avant ça, il n'a jamais pris position.
Maintenant, tu me parles de cette commission. Peux-tu m'expliquer un petit peu vraiment si ce n'est pas un rôle purement symbolique? Et puis alors, on se rend compte à la lecture de ton article que finalement, beaucoup de déchets n'entrent même pas dans le cadre de cette commission, comme les déchets bulgares par exemple.
Oui, ça, mais ça, c'est parce que les déchets bulgares, c'est un contrat qui date d'avant que la loi ait été mise en place, et alors on considère qu'ils ne doivent pas tomber sous le coup de la loi. Sinon, la commission, je crois que la composition n'est pas encore tout à fait définie, donc on ne sait pas encore qui va en faire partie, et ça dépend donc des personnes qui seront dedans. Ça peut être un moyen de pression, mais de toute façon, les écologistes partent du point que c'est pas plus là-dessus qu'ils ont envie de travailler. Eux veulent à tout prix empêcher ces déchets. Donc pour le moment, ils veulent faire pression sur les pays exportateurs parce que pour eux, il n'y a pas à négocier.
Ouais.
Quels sont les pays qui vont importer des déchets nucléaires en Russie? Apparemment, il y en a certains qui se le défendent, il y en a d'autres qui sont très très chauds pour le faire. On peut tirer une généralité?
C'est difficile à dire. En fait, le plus intéressé, c'est Taïwan. Et en même temps, ce sont des déchets qui dépendent des États-Unis selon les traités internationaux, quand c'est les États-Unis qui fournissent l'uranium ou qui construisent les centrales, c'est eux qui en sont responsables. Il y a le Japon, la Corée du Sud, les pays de l'Est, il y en a beaucoup dont les déchets de toute façon dépendent de l'URSS, enfin dépendaient de l'URSS à la base, donc ça c'est pas tout à fait nouveau, à part qu'ils pourraient rester en Russie au lieu de rentrer au pays. Mais ce qui se passe, c'est que concrètement, d'où ils vont venir, tout dépend de ce qui va se passer, avec de ce que les États-Unis vont décider. Ou pour le moment, eux sont encore en train de tester un dernier lieu où on pourrait stocker les déchets. Mais il y a aussi le fait qu'ils veulent absolument, évidemment, si il y a exportation des déchets vers la Russie, avoir le contrôle total, notamment sur les finances qui sont en jeu, mais aussi sur ce qu'on va en faire, ils se rendent bien compte quand même que c'est
Oui, il y a un
dangereux.
danger de prolifération parce que le retraitement crée du plutonium qui peut éventuellement s'avérer dangereux dans des applications militaires, c'est ça?
Enfin, je dis les États-Unis, mais il faut encore faire attention à ce niveau-là aussi parce que c'est pas le gouvernement américain qui dit moi je veux vraiment exporter des déchets. Bon, eux ont une situation difficile avec des déchets, ils ne veulent pas non plus trop se positionner au niveau de la Russie comme solution. J'en parle dans l'article, il y a une grosse organisation qui s'appelle la Non-Proliferation Trust et qui est justement un groupe de spécialistes qui est pour cette idée d'un dépôt mondial, enfin où on pourrait rassembler tous les déchets nucléaires.
Oui, c'est un truc assez fou qu'on apprend dans un des encadrés de l'article, c'est-à-dire que les États-Unis, à travers ce trust, voudraient effectivement un vague projet comme ça de dépotoir mondial. Donc tous les pays mettraient leurs déchets en URSS. Je suppose que ça fait un peu frémir les gens. Déjà, pour la loi ou l'abolition de la loi qui interdit l'entrée des déchets, il y a 4% qui sont pour à peu près. Mais alors là, est-ce qu'ils sont d'abord au courant de ce projet?
Tu veux dire
La population est au courant de l'idée qu'un jour leur pays pourrait devenir le dépotoir mondial de déchets nucléaires?
Ben oui, c'est ce qu'ils ont bien compris. Enfin, les écologistes leur ont fait bien comprendre que c'était ça l'idée du
D'où
projet.
les
Mais
4%,
l'idée
là, c'est.
n'est pas nouvelle, hein. Il y avait déjà eu tentative de faire ça dans une île, puis ça n'a pas marché finalement. Et donc, c'est l'idée que défendent certains spécialistes du nucléaire, on peut dire, et qui sont des spécialistes de la non-prolifération, en ce sens qu'ils pensent que si on rassemble les déchets à un endroit bien précis, il y aura justement moyen de contrôler leur utilisation et leur...
Ouais. Alors,
Et
vas-y, Nicolas.
est-ce que ces spécialistes ont un quelconque argument rationnel pour défendre le dépotoir mondial de déchets nucléaires? Est-ce qu'il y a un autre argument que celui de l'argent que ça permettrait à la Russie de récolter?
Et
Parce
de la
que
sécurité
pour la
pour la
Russie, tu
propre
veux
paix.
dire...
Ouais, oui, je sais qu'il y a un prix Nobel de physique quelque part
Oui, ça
qui.
c'est le prix Nobel de physique russe qui est pour.
Mais quels sont ces arguments? Est-ce qu'il y a des arguments rationnels ou est-ce que tout ça est un grand mensonge pour renflouer les caisses de la recherche atomique, notamment en Russie?
Alors c'est très difficile, il y a évidemment des tas d'intérêts différents en jeu. En Russie, d'après mes conversations avec les écologistes et de ce que j'ai lu, ce qui se passe, c'est qu'on a le ministère de l'énergie atomique qui est un ministère qui a vraiment des problèmes de fond énormes. Ça se voit déjà, par exemple, dans les tas de contrats qu'ils sont en train de signer pour construire des centrales en Iran ou ailleurs, alors que pour obtenir finalement des fonds du budget, alors que ces pays ne payent même pas déjà actuellement ces grands travaux et que c'est tout à crédit, enfin que c'est un suicide financier quelque part. Et pour les écologistes, la démarche du ministère de l'énergie atomique, elle est tout à fait insensée et ils le savent, mais c'est une question de survie économique dans un futur plus ou moins proche, quoi. C'est de dire, s'il n'y a pas plus de fonds dans cette industrie, elle va tomber à l'eau complètement. Alors évidemment, là-dedans, il y a différents intérêts. Il y a les spécialistes du nucléaire en Russie qui veulent vraiment sauver l'industrie du nucléaire. Et puis alors, il y a tout ce dont je parle aussi dans l'article, qui est l'arrière de cela, c'est-à-dire tous les liens avec les grandes banques russes, donc les financiers qui sont intéressés par tout l'argent en jeu dans
Donc
ce
ça a l'air a
projet.
priori strictement économique comme avantage. Et tu peux rappeler approximativement combien rapporte une tonne de déchets radioactifs
C'est
importés?
20 000 tonnes de déchets pour 20 millions de
20
dollars.
milliards de
20
dollars.
milliards de dollars.
Donc 1 million de dollars par tonne à peu
Ouais.
près. Moi, il y a
1
une
milliard.
question que je me pose suite à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est quand même purement économique, etc. Il y a deux questions que je me pose en fait. Tout d'abord, on connaît les libéraux en Russie, ce seront des ultra-ultra libéraux. L'économisme passe avant tout, la population, qu'elle crève, etc. Et bizarrement, on apprend dans l'article que les libéraux sont contre l'importation de déchets nucléaires. Comment ça se fait?
Mais c'est pas la majorité des... Oui, c'est ça, les
C'est un
libéraux...
parti en tout cas ultralibéral.
Oui, enfin, c'est le parti Yabloko qui est un parti libéral, mais quand même avec une volonté démocratique et écologique affichée depuis longtemps, et qui se veut plus ou moins propre au niveau politique, on
Tu me
peut
l'apprends.
dire, quoi.
D'accord. Et d'autre part aussi, tu parlais de sauvetage de l'industrie du nucléaire. Est-ce que tu peux un peu expliquer, en bref, quel est l'état de l'industrie nucléaire, en Russie?
C'est une industrie qui a son potentiel scientifique, c'est-à-dire que il y a des gens qui s'y connaissent en nucléaire en Russie, il y a des tas de travaux importants qui ont été réalisés en Russie, Mais il y a ce que j'explique maintenant, un manque de fonds assez chronique et une corruption vraiment importante qui fait qu'on passe outre des tas de précautions qui devraient être prises dans ce domaine. Et donc,
Et au niveau de la sécurité, ça a l'air d'être aberrant, d'après ce que tu dis, que finalement le pays utilise des, ne fût-ce que pour le transport, tu expliques que le pays utilise des conteneurs complètement dépassés, donc là, les législations ne sont pas du tout adaptées aux normes internationales. Et tu dis même que finalement tout ce transport se fait par parc ferroviaire, mais il y a près de 40% du parc de transport ferroviaire qui est totalement défaillant. Donc c'est même à ce niveau-là, c'est tout de même inquiétant au niveau
C'est
sécurité.
dangereux, hein. C'est dangereux au niveau du transport ferroviaire parce que c'est là aussi, les chemins de fer d'ailleurs sont en réforme parce qu'il y a un manque de fonds chroniques et qu'ils n'arrivent pas à entretenir, le matériel.
Et face à tout ce qu'on a dit, donc finalement, au sein de l'opinion publique et même au sein de groupes écologistes, comment sont perçus ces groupes finalement qui doivent tirer la sonnette d'alarme? Est-ce qu'ils sont écoutés ou est-ce que finalement l'opinion publique n'est pas fort au courant de ça en Russie? Comment c'est perçu finalement?
Mais là, de ce projet, la population est quand même assez bien au courant parce qu'il y a eu aussi un tapage médiatique important. Parce qu'il y a deux aspects. Je crois que la conscience, enfin, le mouvement écologique, c'est un des mouvements les plus anciens en Russie. Enfin, c'est un mouvement qui est fort développé, qui a, donc c'est pas neuf pour les Russes. Et le nucléaire, évidemment, ils connaissent aussi. Il y a eu Tchernobyl, donc ils sont quand même concernés. Enfin, c'est un problème qu'ils connaissent, ils se sentent concernés, ça leur fait peur. Maintenant, c'est ce que je dis aussi, il n'y a pas des centaines de milliers de personnes dans les rues non plus. Donc ça, c'est. Mais ça, c'est peut-être plus aussi un manque de croyance leur possibilité de faire quelque chose, de changer les choses au niveau politique. D'ailleurs, on voit, ils veulent faire un référendum, on leur passe dessus.
C'est ça. Et puis donc ils ont par exemple aussi fait des actions plus ponctuelles comme l'occupation d'une centrale, la centrale Mayak. Là ils ont tout de même été un petit peu rejoints finalement par en tout cas la population locale.
Oui, mais là, enfin, ils n'ont pas occupé la centrale,
Non,
donc
je veux dire
ils ont fait
non,
un camp à
un campement
proximité.
à
Ouais.
proximité. Ouais, je me suis mal exprimé.
Mais la population, là, elle se sent très concernée, vu que c'est la centrale Mayak, c'est une centrale où il y a eu un très gros accident à l'époque, où le fleuve qui passe le long est très pollué radioactivement, avec des populations qu'on n'a jamais su déplacer, mais qui vivent. J'ai vu des images il n'y a pas longtemps où on voit un village et puis la rivière, et il y a des barrières parce qu'on ne peut pas aller à la rivière parce qu'elle est radioactive. Alors qu'il y a de toute façon leurs moutons qui pèsent dans le coin et que l'eau, il faut bien la prendre quelque part. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent, les habitants du coin. Et donc il y en a beaucoup là-dedans aussi qui souffrent au niveau de la santé, des répercussions donc de ces catastrophes et qui n'ont jamais touché une seule indemnité, en tout cas n'ont jamais été reconnus comme touchés par les radiations.
À propos de catastrophe, on voit dans un des encadrés de l'article, tu cites des chiffres d'une enquête où on parle de Tchernobyl. Alors Tchernobyl, c'est une affaire qui a fait énormément de bruit chez nous. C'est un nom qui fait encore froid dans le dos. Et on apprend qu'au fond, le niveau de pollution engendré par l'explosion de enfin bon, l'accident de Tchernobyl est ridicule oui, ridicule par rapport à une pollution beaucoup plus quotidienne engendrée par des centrales russes qui fonctionnent encore. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer que Tchernobyl soit terriblement médiatisé et que par ailleurs une situation gravissime quotidienne qui va en s'empirant et tue chez nous? Et d'ailleurs je pense que c'est ce silence qui a aussi un petit peu mobilisé ta volonté de médiatiser cette situation. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce silence ou cette espèce de médiatisation partielle?
C'est difficile. Je sais pas. Je crois que la situation catastrophique nucléaire en Russie, elle est connue, mais c'est un statu quo depuis longtemps. Donc c'est un sujet qu'on ne reprend pas des masses parce qu'il y a pas, il y a des scandales. Enfin, moi j'étais très étonnée que pour ce qui est du projet d'importation de déchets, il n'y ait pas plus d'écho. Ça, je sais pas. C'est peut-être le nombrilisme français ou belge, mais. La situation nucléaire russe, elle est catastrophique depuis longtemps. Maintenant, on essaye plus de dire que voilà, il y a des fonds qui sont mis en route pour nettoyer les zones sales, etc. Et c'est le cas, que ce soit la Commission européenne ou les États-Unis, ils travaillent au problème. Donc voilà.
On en arrivait à des questions de médiatisation. D'ailleurs aussi, l'article commence par la condamnation d'un journaliste russe qui filme des choses pas très catholiques dans le secteur nucléaire. Mais on va d'abord observer une petite respiration musicale, comme on dit dans les grandes radios.
Oh, dis, cette musique, ça te rappelle rien, toi, oh.
Oui, mon frère, la Suède.
J'ai l'exclame. Je suis né à Ville d'Avray, mes parents étaient bien français, ma mère s'appelait Jeanne et mon père Victor, moi je m'appelle Igor. Mon prénom n'évoque pas le Languedoc, plutôt moscovite, il est explicite. Quand on m'imagine, on voit un baril, juste après ta voix, à son samoura. On dit, l'Islam, j'ai l'Islam. Et ça me poursuit depuis tellement longtemps que je suis devenu cela malgré moi et sans m'en apercevoir. Tu sais que eh, même à Babylone, ils en font pas de la comme ça.
Avec les pompons, avec les pompiers.
L'âme slave. J'ai l'âme slave. J'ai jamais été plus loin que la barrière de Pantin. Tout ce que j'ai de russe, c'est le prénom. Mais ça me suffit bien. À force d'entendre tous les gens me prendre pour russe authentique, j'en ai tous les tics. Je vis de Zakouski, je bouffe des piloches, je bois de la vodka au milieu des repas.
Riquita, jolie fleur de Casbah.
L'âme slave. J'ai l'âme slave. Je suis tellement influencé par mon prénom qu'à toutes les fenêtres de la maison, je viens faire mettre des rideaux de fer. Mais je les laisse ouverts. J'ai l'âme slave pour dire.
Alors voilà, nous sommes toujours en studio avec Nathalie Mélis, que nous avons déjà longuement fait parler, également Jean-Marie Chauvier, éminent spécialiste de la Russie. Nous parlions dans la première partie de l'article de Nathalie sur l'importation future d'une masse de déchets nucléaires en Russie. Et on en arrivait aux aspects presse. Alors effectivement, comme je le mentionnais juste avant, Nathalie, il y a un journaliste qui a pris 4 ans de prison, je crois. Je consulte mon exemplaire du Monde Diplo. C'est bien ça, 4 ans de prison pour avoir filmé la marine russe rejetant des résidus radioactifs en mer du Japon. Est-ce que c'est symptomatique de la presse et des médias en Russie, de la liberté de la presse?
En plus, c'est un journaliste militaire, je pense, non?
Grigory Pasco.
Est-ce que c'est symptomatique?
Symptomatique? Ouais, je ne sais pas. Peut-être ce qu'il faut, dire en gros des médias en Russie, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu tout de même une quinzaine d'années déjà, une grande libération et donc l'avènement d'un pluralisme d'opinion qui n'existait pas auparavant. Il ne faut jamais oublier ça. Qu'on a connu, je dirais, un âge d'or du pluralisme et du débat d'opinion, à mon sens, au début, fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire un moment où la presse se libérait des censures anciennes du parti État et les groupes financiers n'étaient pas encore arrivés. On était d'ailleurs en régime d'autogestion dans un certain nombre de journaux. À partir du milieu des années 90, s'affirme un pouvoir quasiment absolu des grands groupes financiers, c'est-à-dire des oligarchies qui maîtrisent l'économie, qui à ce moment-là contrôlaient également, ou en tout cas se trouvaient en osmose avec le Kremlin du temps du président Yeltsin, et qui se sont emparés de la quasi-totalité du champ médiatique. Cela dit, un certain pluralisme s'est maintenu du fait que ces groupes financiers, d'une part le Kremlin de l'autre, poursuivaient des objectifs différents, contradictoires. Et c'est ce qui a donné lieu, par exemple, à un moment donné, quand il y a eu la première guerre de Tchétchénie, 94-96, il y avait un pluralisme d'opinion en Russie qu'on ne peut même pas imaginer chez nous. Imaginez un pays en guerre où chaque soir, un journal télévisé donne le point de vue officiel et le journal télévisé d'une autre chaîne donne un point de vue tout à fait contradictoire. Il n'y a donc pas de pensée unique. Il n'y avait pas de pensée unique en Russie. Je ne sais même pas si on peut parler de pensée unique aujourd'hui. Mais en tout cas, depuis un certain temps, depuis Poutine en tout cas, il y a une volonté du Kremlin de remettre, de reprendre, de rétablir un contrôle sur les médias, non pas de retourner à l'ancien système, de restaurer les censures, de restaurer un parti unique, etc. Il ne s'agit pas de ça, puisque on est dans une configuration tout à fait différente, avec des groupes financiers, on est en voie de capitalisation de la Russie, donc ça ne change pas. L'orientation générale reste la même, mais Poutine se débarrasse des oligarques financiers et magnats de la presse qui le dérangent, et paradoxalement d'ailleurs, il se débarrasse de l'un d'eux, maintenant Berezovsky, qui lui-même a joué un rôle tout à fait fondamental dans la mise sur orbite de Poutine.
Et justement, c'est ça peut-être un peu toute l'hypocrisie, c'est que finalement, il n'y a pas de contrôle sur les médias comme ça se passait à l'ancien régime qui était un contrôle politique, mais c'est finalement avec des moyens économiques comme la reprise de NTV par Gazprom et des grands réseaux médiatiques, justement, que ce contrôle indirectement arrive dans les mains de Poutine, parce que finalement, lui, officiellement, n'a rien à dire, mais c'est surtout des amitiés économiques qui lui permettent de les contrôler.
Oui, effectivement, c'est ça, c'est très intéressant de souligner ça, et de le souligner dans tous les domaines, et par rapport à ce qu'on écrit parfois dans nos journaux, on parle du retour au passé, du soviétisme, de Poutine, qui ancien du KGB, etc., comme si on allait revenir dans une situation antérieure, et ça je crois que c'est tout à fait erroné, on est vraiment dans une configuration nouvelle, celle du capitalisme, on utilise les moyens du bord, de même que pour reprendre le contrôle partiel de l'économie en Ukraine, la Russie utilise non plus des méthodes administratives typiques du système antérieur, elle utilise des moyens économiques, c'est-à-dire de type capitaliste, elle rachète des parts, elle achète des actions dans les entreprises ukrainiennes en échange de remboursement des dettes énergétiques de l'Ukraine, par exemple. Bon, donc il y a un glissement vers des méthodes tout à fait nouvelles. Cela dit, j'ai parlé du pluralisme, il faut tout de même ajouter que dans la majorité des médias là, et des grands médias, il y a tout de même un accord et peut-être une pensée presque unique sur les choix fondamentaux qui ont été faits il y a 10 ans, et les choix donc d'une économie capitaliste, le choix d'un développement, le choix de la globalisation qui est en Russie, dans le discours officiel et dans le discours libéral, dans le discours même des groupes de presse libéraux de différentes tendances critiques envers le Kremlin, un discours qui identifie la globalisation
au progrès,
à l'ouverture, dans un pays qui a été longtemps en autarcie, en fermeture, et à la civilisation. La civilisation étant identifiée au marché, dont on était relativement privé, à la démocratie, et aux nouvelles technologies qui étaient également bridées par l'ancien système.
Dans ce contexte-là, est-ce que pour caricaturer, les antimondialistes non communistes, réactionnaires, etc., non isolationnistes, ce qu'on qualifie en général d'antimondialistes en général, ont un canal d'expression en Russie, oui ou non?
Il me semble qu'ils en ont très peu, vraiment très peu, et qu'ils sont...
Ils sont caricaturés,
par les médias. Caricaturés par les médias. On a vu au moment de la manifestation de Gênes un certain nombre d'éditorialistes se déchaîner, notamment l'un d'eux dans les Izvestia, qui assimilait les antiglobalistes à des fascistes, à des pogromistes. Il faisait des comparaisons avec les putschs de Cap en Allemagne en 1923 et tentatives de putsch fasciste en France en 1934, etc. Donc il y a une caricature et une ligne de continuité qui est établie entre l'antiglobalisme actuel et l'anticapitalisme d'avant. C'est-à-dire que, bon, je me souviens, par exemple, un des grands journaux, Commerçant, parlant de la manifestation antimondialiste de Prague, faisait un rapprochement avec l'entrée des chars soviétiques à Prague en 1968. Voilà, l'anticapitalisme était déjà là, est venu en 68, il revient aujourd'hui avec les antiglobalistes. Il y a donc une continuité qui est établie, et on va retrouver ça dans le discours sur les attentats du 11 septembre et Ben Laden. Des éditorialistes vont expliquer que Ben Laden, le terrorisme islamiste, tout compte fait, ce sont les héritiers du terrorisme communiste, en quelque sorte Lénine est le père spirituel de Ben Laden.
Et moi je me demandais, dans quelques-uns des articles que vous avez écrits et que j'ai pu lire, vous citez une certaine presse de droite russe, notamment les Izvestia, je ne sais pas comment ça se prononce, notamment une phrase à propos du 11 septembre, « En Égypte, en Irak, dans les territoires palestiniens, les gens, mais sont-ils des gens, ont applaudi. » Alors on retrouve un petit peu partout des phrases comme ça, abominables. Est-ce que cette presse de droite est un petit peu une espèce de DH local, ou est-ce que c'est représentatif dans le paysage de la presse russe? Est-ce que ce sont des exceptions d'extrême droite, ou est-ce que c'est très lu, est-ce que c'est représentatif de l'opinion publique ou du paysage médiatique russe?
Alors, on ne va pas entrer dans le débat gauche-droite, parce qu'il y a un gros problème sémantique là. Qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite en Russie? Et puis, en général, c'est un problème de lecture de ce pays, des événements dans ce pays. On a des obstacles de type sémantique, c'est-à-dire qu'on place sur des réalités qui sont différentes des nôtres, des termes identiques. On parle de parti politique, on parle de gauche, on parle de droite, on parle toutes sortes de termes qui font référence à des réalités que nous connaissons bien en Europe, et qui, plaqués sur la réalité russe, ne collent pas, enfin ne correspondent pas. Ça, c'est quand même c'est un gros problème. Alors, qu'on ne va pas aborder maintenant. Alors, quand on parle de la presse, les Izvestia, ce n'est pas la DH, c'est un journal d'élite, c'est un grand quotidien d'élite. On peut dire que maintenant, dans la période post-soviétique, se sont aussi formés deux types de presse. Ça n'existait pas, ou pas de cette façon-là auparavant. Une presse d'élite, donc de faible tirage, mais essentiellement lue à Moscou et dans les milieux des décideurs, comme on dit. Et puis il y a une presse populaire, tabloïde, voilà. Alors pour en venir à ce racisme, c'est sorti assez raciste, excessif que vous avez cité, et qu'on a donc publié dans la revue Samovar. Bien, au lendemain du 11 septembre, il y a dans les médias russes une convergence entre les médias officiels qui suivent la ligne Poutine, les choix faits par Poutine. C'est pas une différence entre État et privé. Ce sont les médias qui suivent le Kremlin, qui sont proches du Kremlin, et le Kremlin a fait un choix stratégique. On n'a pas le temps de le développer ici. C'est le choix de s'allier aux États-Unis dans la campagne dite antiterroriste. C'est une chose. Il y a coïncidence avec ou convergence avec les médias libéraux, au sens où ceux-là défendent, comme les officiels, le choix capitaliste et globaliste de la Russie, mais en plus, poussent le bouchon un peu plus loin dans le sens du libéralisme économique et parfois du libéralisme politique aussi, parfois. Lisez Izvestia, en l'occurrence, c'est un journal qui opte pour un libéralisme musclé. C'est dans les Izvestia notamment qu'on a vu des défenses du régime Pinochet comme modèle de développement, modèle à suivre pour la Russie il y a quelques années. Donc il y a coïncidence et convergence entre ces deux points de vue. Pour les libéraux, le 11 septembre, c'est l'occasion pour la Russie de faire un choix. On dit à certains moments, la Russie a déjà fait un choix en 91, maintenant elle a une nouvelle occasion d'affirmer son choix. Est-ce qu'elle va se rapprocher, s'accorder à l'Occident, à la civilisation occidentale, ou est-ce qu'elle va rester en marge dans, là-bas on dit l'asiatisme, c'est une façon de dire la barbarie. Voilà, c'est posé en ces termes-là. Et alors là, vous trouvez une presse tant populaire que d'élite, libérale ou ultralibérale, qui en plus cultive hardiment, disons, l'image de l'ennemi, une nouvelle image de l'ennemi, qui ne sont plus l'Occident ou les États-Unis, et qui sont l'islam, qui sont localement surtout les Tchétchènes, les Caucasiens, en général les musulmans. Et puis il y a une extension de cette xénophobie en direction des Arabes et particulièrement des Palestiniens. Et là, c'est peut-être un peu surprenant pour les gens d'ici, c'est que on a toute une série de journaux russes qui, dans la question israélo-palestinienne, alors que traditionnellement l'Union soviétique avait des positions pro-arabes et que c'est resté dans la politique russe pendant un certain temps, on a des points de vue très favorables à Israël et même à Sharon, des points de vue très très élogieux vis-à-vis d'Ariel Sharon. Et donc on a eu un acharnement en particulier dans certains journaux, notamment les Isvestia, contre les Palestiniens, qui au contraire des gens civilisés se réjouissaient des attentats terroristes du 11 septembre.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans une certaine presse finalement le fait de donner une certaine leçon de morale aux États-Unis qui soutenaient finalement les talibans tandis que les Russes ont toujours soutenu l'Alliance du Nord? Est-ce qu'il n'y a pas finalement maintenant aussi une espèce de fierté cachée de dire ben voilà, on vous avait toujours dit que vous faisiez fausse route, vous auriez dû nous suivre dès le début?
Ah oui, bien sûr, là c'est dans l'argumentaire de Poutine, dans l'argumentaire officiel, effectivement. Ça s'y trouve, à savoir les États-Unis ont joué avec le feu, ils ont soutenu les réseaux islamistes de longue date contre les alliés arabes, nationalistes arabes de l'Union soviétique et plus tard contre l'Union soviétique elle-même en Afghanistan. Ils ont formé le réseau Ben Laden qui a été encore utilisé ces 10 dernières années en Asie centrale et en Transcaucasie, voire au Caucase. En Tchétchénie, pour contrer les intérêts russes et pour contrer tout particulièrement les intérêts géostratégiques et pétroliers de la Russie. En quelque sorte, les Américains, la Russie se rallie aux États-Unis, mais les États-Unis se rallient aussi à la Russie, qui, dit le discours officiel, se trouve à l'avant-garde de la lutte antiterroriste en Tchétchénie. Voilà, et sur cette base, sur cet argumentaire, on fonde l'espoir d'un tournant stratégique, non seulement de la part de la Russie, mais de la part des États-Unis, dans le sens d'une alliance durable entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que c'est un calcul plausible et réaliste? Ça, c'est une autre question.
Justement, dans nos médias, on n'entend plus vraiment parler de la Tchétchénie, alors qu'elle a vraiment défrayé la chronique à un certain moment donné, surtout lors de la première guerre en Tchétchénie. Où est-ce qu'on en est en Tchétchénie? Est-ce que le massacre se perpétue dans le silence total? Et aussi, quelles sont les visées de Poutine? Justement, comment est-ce qu'il profite ou non du 11 septembre pour faire ce qu'il veut là-bas?
Mais il en a bien profité, mais il n'y avait pas besoin du 11 septembre. Déjà auparavant, vous avez remarqué que lors de la première guerre de Tchétchénie, déjà du temps de Boris Yeltsin, notre grand ami, les critiques en Occident par rapport à cette guerre qui a fait au moins 50 000 morts, et ce sont les estimations les plus basses, cette guerre n'a soulevé que très très peu de critiques en Occident, à l'exception de quelques journaux, français notamment. Quant à la deuxième guerre, il y a une accentuation critique au début parce que Poutine éveillait certains doutes, certaines méfiances, du moins dans certains milieux, anciens du KGB, peut-être tentés par un retour aux anciennes méthodes, etc. De ce point de vue-là, Poutine a donné toutes les assurances. Il a restauré la confiance. Oui, certes, il y a des choses qu'on a mis en avant ici. Poutine, par exemple, a rétabli la mélodie de l'hymne soviétique. Il a restauré des défilés militaires à l'occasion du 9 mai, à l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, etc. Et ce sont toutes des concessions symboliques qui ont enlevé d'ailleurs aux communistes et aux patriotes le monopole du patriotisme. Et qui n'ont pas empêché Poutine de choisir des conseillers ultralibéraux dans son staff pour concocter la nouvelle vague de réformes, de privatisation qui sont maintenant mises en chantier. Donc Poutine est rassurant pour l'Occident, et c'était déjà vrai, vous savez, c'était peut-être pas vrai dans Le Monde ou dans Le Soir, mais là, bon, ils sont toujours en retard d'une guerre ou à côté, mais À l'OTAN, par exemple, il y avait un point de vue très favorable à Poutine et à la Maison-Blanche aussi, déjà du temps de Clinton. Il y avait déjà, il y a eu un parti pris pro-Poutine aux États-Unis. Et à un moment donné, dans l'échelle des, dans la hiérarchie, disons, des priorités américaines, je crois que les intérêts pétroliers, caucasiens, transcaucasiens, certes très importants et qui reviendront peut-être à l'avant-plan d'ici peu, ces intérêts ont été mis au second rang parce qu'il était beaucoup plus important évidemment de contrôler, d'avoir des assurances sur la personne, sur le locataire du Kremlin, sur la personne qui allait contrôler le centre du pouvoir en Russie. Donc Poutine finalement est un bon, c'est peut-être pas celui dont on aurait rêvé, mais c'est un bon, donc on parle moins de la Tchétchénie. Cela dit, la guerre continue, c'est pas parce qu'on en parle peu qu'une guerre n'existe plus, nous avons certainement d'autres exemples dans le monde. On ne parle d'une guerre abondamment dans les médias que lorsqu'il y a certains intérêts pour en parler. Et voilà, la guerre continue, elle est, comme on dit, un conflit de basse intensité, c'est pas des, ce ne sont plus des ça n'a jamais été d'ailleurs une grande guerre de mouvement et des combats frontaux. C'est une guérilla, ce sont des attentats, ils continuent, il y a des morts, il y a des victimes. Et la répression, d'après les informations, bon, moi, peut-être que Nathalie Mélis en a d'autres, d'après les informations qu'on reçoit de gens qui vont sur le terrain, qui participent aux ONG, Ligue des droits de l'homme aussi, les différents mouvements des droits de l'homme, la répression, on peut parler d'une répression extrêmement féroce, utilisant des méthodes, des tortures, etc., extrêmement cruelles. Là, il n'y a aucun doute, je crois, à avoir. Bon, pour Poutine, ce n'est pas une guerre, c'est une opération de police. C'est une opération antiterroriste. Et donc, il est surpris, encore aujourd'hui, ou il fait le surpris, lorsque des critiques s'élèvent en Occident. Alors,
il y a un parallèle presque avec Sharon, ils sont plus ou moins à la même conception de leur guerre, c'est combattre un terroriste, donc ils ne voient absolument pas que c'est une guerre.
Bush,
Oui, et maintenant ils se rejoignent avec Bush finalement, parce qu'il y a une espèce de discours dominant qui est, écoutez, on ne fait pas la guerre, on ne fait que du nettoyage face aux terroristes.
Oui, d'ailleurs, Bush, Sharon, j'y viens. Ben, Sharon était à Moscou avant le 11 septembre, il était très bien reçu, et bon, on ne dirait pas que les deux hommes d'État se sont approuvés mutuellement, mais ils ont fait preuve d'une très grande compréhension mutuelle pour leurs problèmes respectifs, tchétchènes d'un côté, palestiniens de l'autre. Il y a une sorte de rapprochement là, entre Israël et la Russie face au terrorisme. Oui.
Et moi, je me dis, bon, on arrive tout doucement au temps de conclure. Donc, on a entendu avec toi, Nathalie, au début, un projet d'accueil de déchets radioactifs complètement suicidaire. On entend par ailleurs qu'il y a toute une frange importante de la presse russe complètement acquise à une espèce de propagande ultralibéral. On parle de cette guerre en Tchétchénie. Est-ce qu'au milieu de tout ce tableau, on ne peut plus inquiétant, il y a quelques voix dissidentes ou quelques franges d'espoir? Toi qui connais un petit peu les milieux militants en Russie, qu'est-ce qu'on pourrait projeter comme avenir probable
En deux minutes comme à l'RTBF. Hein.
C'est vraiment une sale question. Oui, non, je ne sais pas.
Qu'est-ce qu'il y a comme espace pour une voix discordante dans tout ça?
Il y a les espaces au niveau... la meilleure façon de répondre, c'est les espaces déjà pris par les écologistes qui quand même arrivent à faire pas mal de choses. Faut pas croire non plus que c'est la catastrophe, mais parce qu'il y a des tas d'espaces laissés vides par ce pouvoir qui ne contrôle que ce qui l'intéresse. Et puis du coup aussi au niveau... du local, de la vie, de la solidarité, il y a des tas de choses qui peuvent se faire. Est-ce
qu'il y a des agences de presse indépendantes là-bas, ne fût-ce que par Internet, par l'outil d'Internet, est-ce que quand même il y a...
Oui, ça y est.
Et puis oui, justement, pour terminer là-dessus, on a donné un petit peu plus d'informations que ce qu'on a l'habitude d'en entendre ici dans cette émission, enfin par rapport aux autres médias. Mais pour ceux qui s'intéressent à la Russie, comment s'informer en contournant, disons, les grands médias habituels? Je suppose qu'il y a le monde diplomatique, il y a peut-être des journaux russes qui ont des sites en anglais. Enfin, je pose la question.
C'est pas évident. Moi, je dirais juste que il y a un sitting des médias russes, malgré tous les bruits qu'il y a eu à ce sujet récemment, avec des choses en anglais dessus. Il y a un autre site que moi je consulte beaucoup, qui est le site des Nouvelles Radicales, où il y a aussi parfois des textes en anglais, mais pas énormément, en effet.
L'adresse, c'est quoi?
Oui, Goryachi, Goryachi.narod, Narod, point RU.
On mettra le lien sur le site d'Alter Echo.
Mais ils sont sur le site Samovar aussi, c'est aussi
Voilà,
une
puis il y avait
base.
Samovar effectivement, mais ça apparemment c'est fini. Un petit bulletin mensuel qui reprenait tout un éventail de nouvelles de Russie, ça se termine ça.
Ouais.
Oui, ça se termine. Et d'une façon générale, pour répondre à la question, mais ne pas y répondre, non. Plus exactement, vous avez y a des tas de recherches confidentielles et de revues confidentielles. Et c'est vrai pour la Russie d'ailleurs, comme pour l'Occident. Il y a plein de choses intéressantes qui s'écrivent, qu'on peut dénicher dans les coins, à condition de bien chercher, même les gens pointus, tout ça, nous-mêmes qui cherchons, c'est pas évident. Donc il s'écrit des tas de choses, puis par ailleurs, il y a les grands médias, et les grands médias font leur choix. Les grands médias, bon, il y a les difficultés sémantiques dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi les choix idéologiques, les partis pris dans nos journaux, bon, c'est un autre sujet.
Qu'on a déjà souvent abordé ici.
Oui, ces partis pris existent également pour la Russie. Il y a des changements d'optique générale, des changements d'attitude dans nos médias qui font qu'à certains moments, on parle plus ou moins et en bien ou en mal de la Russie. On a vu ça au cours des 10 dernières années, sans parler de l'époque de la guerre froide.
Voilà, on vous aurait écouté parler encore bien longtemps, mais hélas, nous n'avons qu'une heure par semaine sur cette antenne. En tout cas, merci beaucoup d'être venus, Nathalie Mélis et Jean-Marie Chauvier, et peut-être à une émission prochaine.
Merci à
Merci aussi
Nicolas.
à Nicolas et Nico. Et merci aussi à vous, chers auditeurs, d'être restés en notre compagnie au long de toute cette heure. Les musiques que vous avez entendues, c'était d'abord dans la série Inédit, Chant des femmes de la vieille Russie. C'était un chant à danser. Et puis également Les Charlots, qui chantaient une chanson de Boris Vian, qui s'appelle L'âme slave, qui a aussi été interprétée en son temps par Jacques Higelin. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion le vendredi à 14h sur Radio Campus 107.2 à Bruxelles. Également le mardi en matinée vers 10h sur Radio Panique 105.4. Et puis évidemment, le site internet sur lequel vous retrouverez les liens vers les sites cités par Nathalie Mélis. L'adresse, c'est 3xW. www.collectif.net/alterecho, et collectif est évidemment au pluriel. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission et à la semaine prochaine.